j'ai toujours pensé, toute petite déjà, que je jouais à la chanteuse, que je chanterais. Voilà, je ne savais pas comment, je ne savais pas ce que ça voulait dire, être une vedette ou non. Voilà. C'est après que j'ai compris les choses, mais je voulais chanter. Ça, j'étais sûre que je chanterais. J'ai toujours cru à ça. Écoutez, moi, je ne me trouve pas du tout mystérieuse. Chacun de nous promène un mystère. On est toujours mystérieux pour quelqu'un. Moi, là, j'ai toujours été comme ça. Avant, on disait que c'était parce que j'avais mauvais caractère. Maintenant, on dit que c'est parce que je suis mystérieuse. Vous savez très bien que je n'ai rien de mystérieux.
Le public m'a accouchée. Complètement. Le public m'a rendue ma douceur, m'a fait accepter mon physique. Il m'a portée avec une telle ferveur, avec un tel amour, que jamais je ne tricherai. Je ne pourrai pas tricher.
Le grand atelier fantôme.
Comme un soleil, l'arbre.
De Barbara.
Comme un soleil.
Barbara est morte il y a 20 ans et c'est presque difficile à croire. 20 ans après, on la croirait présente, toujours là. Pas simplement parce que sortent de nouveaux livres et un nouveau disque hommage ou un coffret, en plus d'une exposition parisienne, mais aussi parce que ses chansons accompagnent encore nos vies aujourd'hui et sa prose, certains diront sa poésie, n'est pas surannée. Alors que reste-t-il de Barbara? Que nous a-t-elle laissé? Qu'a-t-elle écrit de si juste pour que sa voix, sa poésie frappe encore haut? Nous allons poser ces questions et d'autres à plusieurs invités. Valérie Lehoux, journaliste et biographe de Barbara. Vincent Delerme qui va chanter Barbara dans ce grand atelier. Et puis la romancière Ketevan Davrichewi qui lui consacre un livre. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Et puis nous l'écouterons Barbara. Barbara qui parle vite, qui se défend d'être un poète ou d'être triste. Et naturellement, elle chantera notre fantôme bienveillant d'aujourd'hui.
Silence. Ta main, ma main et le silence. Des mots, pourquoi, quelle importance? Plus tard, demain, les confidences. Si douce ta bouche et je m'affole. Je roule, m'enroule et tu t'affoles. La nuit profonde, la fin du monde, une gerbe de feu. Oh, se connaître, se reconnaître pour Préor.
Ketevan Davrichewi, vous aimez cette chanson, Plus rien?
Oui, j'adore cette chanson.
Je vous ai entendu la fredonner.
Oui, mais je peux les fredonner toutes.
C'est vrai?
Oui.
C'est comment, Plus rien?
Ah non, je chante faux.
Vous publiez un livre, et ça vous savez faire, Barbara, notre plus belle histoire d'amour aux éditions Taillandier, dans lequel vous vous racontez, en expliquant comment les chansons de Barbara ont marqué et accompagné votre vie depuis l'enfance. Et dans cette autobiographie avec Barbara comme fil conducteur, vous interrogez aussi d'autres amoureux de la chanteuse. Pourquoi? Pourquoi ce désir de rassembler, en plus de vos souvenirs, une somme d'autres souvenirs?
Ben, en fait, au départ, c'était plutôt interroger les gens sur l'importance des chansons de Barbara. Moi, je cherchais comment dire à quel point j'aimais les chansons. Je tournais autour, je savais pas trop. Et puis, au fur et à mesure, je crois que c'est l'éditeur qui m'a peu à peu poussé en me disant « C'est intéressant quand les autres parlent, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un fil et que ce soit toi qui nous explique pourquoi c'est si important. Et ça ne peut être fait qu'en incarnant ça dans ta propre vie. »
Alors, Valérie Lehoux, vous étiez attelée à la biographie de Barbara. C'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, vous écriviez, entre autres, « Barbara est devenue un sujet d'étude et de recherche privilégié pour les journalistes et pour les auteurs de la chanson. » Est-ce que 10 ans après avoir écrit ça, ça continue et vous pouvez faire ce même constat?
Le constat est stupéfiant. intéressant parce que non seulement ça continue, mais ça ne cesse d'enfler. Enfin, là, je pense qu'on peut vraiment parler d'un phénomène Barbara. Je n'ai pas, moi, la sensation qu'un artiste ou qu'une artiste ait déjà été célébrée à ce point-là. Enfin, c'est vraiment très, très étonnant. On a pléthore de livres. Je tiens à dire que j'aime beaucoup celui de Ketevan, qui est vraiment, pour moi, le plus original. Y a cette grande exposition à la Philharmonie de Paris. Il y a le film de Mathieu Amalric. Il y a des spectacles de reprises de tous les... Enfin, moi, je reçois des disques de reprises de Barbara à peu près, allez, tous les 18 jours, depuis 6 mois. C'est incroyable.
Vous arrivez
c'est
à expliquer pourquoi, incroyable. Vincent Delerme
Oh non, hein c'est très difficile, mais il y a quand même quelque chose qui est tellement moderne aussi dans l'esthétique, toutes les... Chaque fois qu'on voit une image d'elle, c'est très beau. Il y a quelque chose qui cadre aussi très bien avec dans son attitude, avec des choses qui peuvent être là aujourd'hui. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça sa manière de se tenir, par exemple sur ces photos où elle tend le bras vers le haut. Enfin, ce serait a priori ridicule de faire ça, sauf dans un truc très graphique. Des gens comme Christine and the Queen, voilà, on est comme ça, des postures des fois très précises. Et il y a quelque chose de très dessiné aussi. Donc, je pense que ça part aussi de là, et puis après évidemment la richesse des chansons, mais dans le film de Mathieu Amalric, ce côté esthétique est très présent, et cette élégance permanente qui du coup c'est assez parfait, parce que c'est très élégant et c'est très profond en même temps, c'est pas du tout en surface, ça vient de très loin, c'est très touchant, donc il y a une sorte de cocktail un peu magique, et effectivement ça fait drôle quand on l'aime depuis longtemps, de sentir qu'au lieu que ça se tasse un peu, et que les gens se disent qu'elle passe de moins en moins, au contraire il y a quelque chose qui grossit. Ouais.
Je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, dégrafez les cols blancs de vos consciences. Je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Moi, je suis frappé par le fait que quand on écoute une chanson de Barbara, Ketevan d'Avrichevi, on a le sentiment qu'elle aurait pu être écrite hier. Alors, on peut pas dire ça de tout le monde. Je suis pas certain qu'on puisse dire ça de Brassens, par exemple, aussi talentueux soit-il. Ça marque aussi une époque. Le style de Barbara semble moins marqué.
C'est-à-dire, ce que j'allais dire, c'est qu'à la fois, elle est incroyablement moderne et en même temps, elle est complètement intemporelle. Il y a quelque chose qui, ça touche au plus intime chez chacun. J'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne. Moi, j'ai rencontré une petite fille de 11 ans qui, je ne sais pas, a été complètement bouleversée en écoutant Barbara. Alors, spontanément, les enfants vont pas aller écouter Barbara. Mais si on leur donne à écouter Barbara, il y a une simplicité, quelque chose qui directement parle à tout le monde. Et je pense que c'est aussi parce qu'elle parlait d'elle et qu'elle racontait des choses choses extrêmement incarnées pour elle et de façon très simple. Et finalement, ça touche tout le monde.
Valérie Lehoux, est-ce que vous sauriez dater l'enregistrement de cette archive?
Ah bah, on va dire qu'à partir de... en tout cas, ça c'était devenu un rituel, que les gens la rappellent en chantant « Dis quand reviendras-tu ». Ça a commencé à peu près à Pantin en 81, mais je crois que celle-ci, c'est quelques années plus tard, au Châtelet, en 1987, quand elle fait son premier Châtelet. Et je me demande si on n'y était pas tous, non? On y était, hein? Ouais.
Moi, je ne l'ai jamais vu sur scène.
Non, Vincent, ce n'est pas possible.
Trop petit.
Ça a été frustrant de ne pas voir un concert de Barbara, Vincent Delerme ?
En fait, j'avais le sentiment que... C'était drôle, en faisant le livre, quand Kate Evans m'a interrogé sur Barbara, je me rendais compte que finalement, j'étais pas tout seul avec Barbara, qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient vécu des choses très fortes, et j'étais presque un peu déçu de ça. Et je pense que je pressentais un peu ça... Dans les dernières années, j'avais un peu peur d'aller voir un concert, sûrement, parce que j'aimais bien l'idée d'être tout seul avec elle, d'être un peu la seule personne sur Terre qui aimait ce qu'elle. Je savais très bien que c'était pas le cas, mais j'avais sans doute besoin de ça, alors qu'il y avait cette ferveur. Et après, aussi, j'ai redécouvert beaucoup tous les enregistrements publics. Maintenant, c'est presque ce que je préfère écouter. Mais à la fin de sa vie, c'était tellement énorme. Et j'avais l'impression même qu'il y avait des gens qui allaient crier plus fort que moi, alors qu'ils l'aimaient moins. Il y a un truc un peu comme ça.
Valérie Lehoux, racontez-nous voilà le public de Barbara.
C'était dingue.
Ah, c'était dingue. Alors, à partir du Châtelet 87, là, dont on entendait un extrait, elle disait... J'ai trois générations qui viennent me voir. Mais c'était vrai, elle avait trois générations. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les grands-parents, les parents, les enfants. Alors, quand on voit les images d'archives, hein, des débuts de Barbara, des premiers concerts, enfin les 10 premières années, c'est quelqu'un qui est plutôt rivé, si ce n'est coincé à son piano, qui a un chant très intérieur, qui a le regard un peu illuminé, mais qui est vraiment... qui a une gestuelle très sobre, pour ne pas dire pas de gestuelle du tout, quoi. C'est vraiment assez statique. Et petit à petit, c'est quelqu'un qui va se libérer sur scène. Et moi, quand j'ai commencé à aller la voir sur scène, c'est-à-dire à partir de 86, c'était quelqu'un d'extrêmement mobile. Elle ne cessait de bouger, de traverser la scène à gauche, à droite, en ayant des postures.
Donc ça rendait le public fou, hystérique.
Mais c'était une espèce
pas
de...
hystérique. Il n'y avait pas d'hystérie. Hein.
Non, par
pas...
contre, c'était très joyeux. C'est ça, parce que très souvent, on a l'image de l'extérieur de la grande messe noire avec la prêtresse. C'était pas ça. C'était du bonheur de retrouvailles joyeuses pendant 2 heures, cette espèce de parenthèse enchantée, de célébration, certes d'une chanteuse, mais de célébration aussi de ce qu'elle appelait sa plus belle histoire d'amour. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avait la sensation qu'en effet, cette femme-là avait consacré la vie à son public.
J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux, ça pourrait mieux sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous. Ce fut un soir en septembre. Vous étiez venu m'attendre ici même. Vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Vincent Delerme.
Je pense qu'il y avait aussi cette idée que seuls les gens, c'était seulement en y étant qu'on pouvait voir ce que c'était, parce que c'était pas la même chose que quand elle faisait des émissions de télé. Ou il y a des artistes, finalement, quand on va les voir sur scène, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu chez Michel Drucker, sauf que c'est 20 fois plus long. mais là, c'est vraiment autre chose. Si on n'y est pas, on sait pas ce que c'est. Donc c'est quelque chose qui crée dans les salles quelque chose de très fort.
Elle disait dans le générique, enfin, on l'a repris dans le générique, le public m'a accouché. C'est fort qu'était Vanda Brichevi.
Bah oui, moi j'ai l'impression qu'elle donnait tout. Enfin, après moi c'est compliqué de parler de la personne parce que moi j'ai mis très longtemps à savoir qui était Barbara. C'était surtout ses chansons qui m'accompagnaient, qui comptaient, qui et donc Barbara je l'ai découvert dans Lili Passion en fait. Mais j'étais complètement émue de la voir et c'est vrai qu'on sentait même dans Lili Passion qui donc n'était pas un concert classique, qu'il y avait ce lien. Moi c'est ce qui m'a frappée dès que je l'ai découverte sur scène, ce lien au public effectivement qui était j'ai vu énormément de chanteurs sur scène des concerts de chansons françaises et c'est vrai que j'ai jamais vu le public dans cet état d'émotion incroyable, joyeuse, une émotion joyeuse et puis surtout qui restait, qui ne voulait pas partir, qui était capable de chanter 3 chansons en entier jusqu'à ce qu'elle revienne juste saluer. Enfin, j'ai jamais vu à ce point-là, ça c'était incroyable.
Mais je pense à la réalité de ce qu'elle disait, c'est-à-dire je la crois quand elle disait « le public m'a accouché », je pense qu'on pourrait dire « le public m'a sauvé ». Je pense que c'était ça, je pense que c'est toute l'histoire de Barbara. Il faut réaliser l'histoire de Barbara en très très rapidement, c'est quand même l'histoire d'une petite fille juive qui naît en 1930, qui connaît, dont la famille connaît des vrais problèmes de pauvreté avant-guerre, qui pendant la guerre est obligée de se cacher, d'être séparée de ses parents plusieurs fois, ils se retrouvent, qui pendant la guerre à 10 ans et demi est violée par son père, un inceste qui va durer plusieurs années.
4 ans.
Au moins. Une petite fille qui est obsédée par l'envie d'être pianiste, mais qui à l'adolescence se met à avoir une boule au creux de la main, elle est opérée 7 fois, et là on lui apprend qu'elle ne pourra jamais être pianiste classique. Donc l'un de ses grands rêves s'écroule, et c'est une femme après qui a toujours dit « la seule chose éventuellement qui aurait pu me détourner de la chanson, ça aurait été d'avoir un enfant ». Elle n'en a pas eu. Très vraisemblablement, elle a fait une grossesse extra-utérine qui a été mal opérée au début des années 50, et qui ensuite lui a interdit d'avoir des enfants. Donc qu'est-ce qui lui restait vraiment? Je pense que pour elle, la chanson était sa planche de survie. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'y est accrochée et qu'elle a pu renaître à elle-même.
Et dans l'océan des salles obscures, leurs mains sont comme des fleurs d'écume qui s'ouvrent, se referment, me caressent et me percent et m'emportent.
Oh mes théâtres, oh mes silences, mes paradis et mes enfers, mes ténèbres et ma transparence, oh mes étés, oh mes hivers, oh mes velours, oh mes amours, oh mes vaisseaux, oh mes oiseaux, vous avez tous le ciel immense, de même et multiple pays.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Lili Passion, un extrait de Lili Passion dont nous vous parlions, qui était Vanda Brichevi. Vous étiez allé avec un amoureux, je crois. Il n'avait pas tellement aimé. Vous avez fait une crise dans la rue en sortant parce qu'il n'aimait pas.
Oh là, je parle de ça.
Vous le dites, vous l'écrivez dans
oui,
votre
oui,
livre.
Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a un contexte là. Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, il se permettait de critiquer. Mais moi, c'est parce que j'étais dans un état d'émotion incroyable, parce que c'était la première fois que je voyais Barbara sur scène, que je comprenais que je n'étais pas toute seule justement à aimer Barbara, que les gens avaient une relation avec Barbara alors que moi c'était mon jardin secret, et j'étais dans un état, je crois, où c'était impossible pour moi d'entendre la moindre critique. Enfin, il fallait pas me cacher ce moment-là.
Je comprends ça. Vincent Delerme, si le public accouche Barbara, est-ce qu'elle vous a accouché en tant que chanteur?
En fait, c'était curieux, j'ai eu l'impression de la découvrir en 2 fois, d'avoir toujours entendu ses chansons parce que mes parents les écoutaient. Et après d'avoir eu un deuxième passage, plus vers 16-17 ans, où je réentends ces chansons que je connais par cœur déjà, mais sans avoir jamais fait attention au texte, et notamment Nantes. Sur Nantes, très clairement, c'est vraiment un choc de se dire on peut aller dans quelque chose comme ça d'aussi intime, et qui, par certains côtés, passe aussi très bien musicalement. On peut aussi l'écouter un peu plus distraitement. Il y a cette grande opposition quand même, en général, dans la chanson, entre les gens qui disent des choses très personnelles, très au premier degré, et qui souvent... l'enrobage, disons, est quand même un peu sommaire, et puis des gens très esthétiques, très un peu plus en surface, avec un son qui sonne bien, très produit. Et là, d'avoir quelqu'un qui est à ce point-là, au milieu du guet, et qui réussit à ce point-là les deux choses, je trouve que c'est très rare, en fait.
Elle vous a donc amené à l'écriture intime ou de l'intime?
Ouais, on était très fascinés. Je faisais partie de toute une bande qui était très fascinée par elle quand j'étais étudiant. Et je me souviens d'une fois, on est allé voir un concert à côté de Rouen, d'une chanteuse qui était très très sombre. Et toute cette bande, on est ressorti en se disant ouais, c'est pas possible, c'est trop, y a les chansons sont trop mélancoliques et tout ça. Et en fait, j'avais dit à tous mes potes, mais en fait, vous voyez, Barbara, des fois, c'est très sombre aussi, mais ça ne fait pas le même effet. Donc, cette question du style, elle est tout le temps là parce que ce qui fait que ça passe, que même quand c'est très profondément triste, quand même, il y a aussi des chansons vraiment réellement très tristes. Et ça finit soit par une pirouette, soit c'est le mal de vivre, et hop, ça s'inverse. Enfin, il y a comme ça tout le temps, même quand c'est vraiment très mélancolique, il y a toujours quelque chose qui dit, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. Et puis surtout, encore une fois, elle, physiquement, elle dégage ça. Et je suis assez d'accord avec ce que disait aussi Valérie sur la ferveur du public. Les gens avaient vraiment conscience aussi, je pense, à la fin, à quel point c'était important pour elle et à quel point elle s'était donnée dans cette relation-là. Parce que Ma plus belle histoire d'amour, c'est quand même une chanson qui est très difficile, par exemple, à reprendre, je trouve.
Vous reprenez quelle chanson de Barbara, vous, à la fin de vos spectacles, éventuellement? Ça vous arrive?
Oh, j'ai toujours fait la même, qui est celle qui me touche le plus, qui s'appelle Mon enfance.
On l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs, parce que vous nous faites la gentillesse de vous mettre dans cette émission au piano, à deux reprises, mais pour commencer, le Delerme au piano, le show Delerme, c'est pas du tout par une chanson que vous avez choisi d'intervenir.
Déjà, j'avais pas tellement envie d'en chanter deux, parce que je trouve que, quand j'ai envie d'écouter Barbara, j'aime bien écouter Barbara, pas tellement les gens qui la chantent. Et puis j'aimais bien l'idée d'entendre Denise Glaser parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, a contribué à ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette mythologie qu'il y a aujourd'hui. Elle tient aussi beaucoup à l'esthétique, à la façon de photographier. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, elle parle de Denise Glaser assez en détail. Elle
était une grande intervieweuse des années 60-70 qui a eu un lien privilégié. Hein. Je fais une petite insertion avec Valérie Lehoux, la biographe de Barbara, mais qui l'a interviewée 10-11 fois dans ses émissions de télévision.
Oui, puis qui l'a repérée très tôt. Et il y a quand même cette histoire qui est mythique dans l'histoire de la télévision française. En 1963, Barbara n'est pas encore connue, mais elle participe à une soirée qui s'appelle les Mardis de la chanson, organisée par un passionné de chanson qui veut un peu contrer la vague yéyé en défendant dans la chanson à texte, dans un petit théâtre en face de l'Olympia, qui s'appelle le Théâtre des Capucines. Et à sa première participation, parce qu'elle viendra plusieurs fois, Barbara va créer Nantes. Et dans la salle, il y a notamment Denise Glaser, qui tombe dingue de cette chanson, bien sûr. C'est un choc. Hein. Il y a aussi le patron de Philips qui va lui proposer un contrat, il y a aussi une femme qui va lui proposer de devenir son assistante. Mais il y a notamment Denise Glaser, qui trouve cette chanson tellement incroyable. Et on ne savait pas l'histoire qui se cachait dessous. Maintenant, on la connaît. Denise Glaser est tellement impressionnée qu'elle va inviter Barbara dans son émission Discorama à la télévision pour parler de Nantes. Nantes qui n'existe pas encore sur disque. Et pour pouvoir en parler, elle va faire fabriquer une fausse pochette. Donc oui, c'était quand même une histoire très particulière. Et quand Denise Glaser est morte, un peu oubliée, un peu beaucoup,
dans une grande solitude, hein.
Oubliée par ce métier, Barbara fut l'une des très rare, je crois, l'une des deux seules artistes à s'être déplacée.
Vincent Delerme, on va écouter une interview par Denise Glaser de Barbara qui date du 1er octobre 1967 et vous allez vous mettre au piano. On vous écoute dans le grand atelier Barbara.
Je pense aux gens auxquels vous faites peur, car il y a des gens auxquels vous faites peur et c'est pour cela dont j'aimerais qu'on parle. Je pense qu'ils ont tort, je pense que s'ils vous connaissaient, ils se rendraient compte à quel point tout ce qui vous concerne est authentique et par conséquent sans problème.
Oui, mais ils ont parfaitement le droit de même authentique ou non, de ne pas du tout m'aimer, ça je comprends très bien.
J'ai peur, pas dit pas m'aimer, peur.
Peur, comment vous entendez cette peur? Peur.
Ils ont peur de vous aborder, ils ont peur de votre allure, ils ont peur de votre physique, ils ont peur de votre lucidité.
Je crois. Bon, je crois que, bon, ça m'ennuie de parler de moi, mais puisque vous m'en parlez, je sais même que je peux répondre. Quant à mon physique, je pense qu'effectivement, c'est un physique qui est étranger à beaucoup de gens, c'est-à-dire c'est un physique qui a dérangé beaucoup de gens, qui de ce fait m'a dérangé beaucoup aussi. Et une fois que ce physique a été accepté, moi, je me suis sentie mieux dans ma peau. Donc, il était possible que je le dérange de par une agressivité, de par parce qu'il n'avait pas mal, parce qu'il n'avait pas ma tête. Bon, c'était leur droit. Ce qui est de... Vous disiez de... Vous savez, la rigueur, la discipline, et le... Comment dirais-je enfin, surtout la rigueur, quand on sait parfaitement ce qu'on ne veut pas, sinon ce que l'on veut, en tout cas à coup sûr ce que l'on ne veut pas, on passe facilement, on dit bon alors c'est vraiment pas possible, on ne peut pas travailler avec elle. Et quelquefois, souvent même, les journalistes arrivent et je suis précédée d'une espèce de légende, c'est insupportable, elle ne parle pas, ce qui est vrai, je parle peu. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement courtois. Ce que je ne fais jamais, c'est je demande, je ne peux pas recevoir le journaliste avant mon tour de chant parce que j'ai peur. Bon, alors quelquefois, il y en a qui comprennent parfaitement bien, là, c'est la majorité. Puis d'autres qui ne comprennent pas du tout, qui pensent que c'est un jeu, je ne sais pas quoi, un jeu de foi, je ne sais pas du tout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas le jeu là-dedans. Alors il y a ces gens-là qui disent, elle n'est pas possible. Et puis je suis persuadée qu'il y a des gens avec qui j'étais traiteuse qui disent aussi, pour la légende, que j'étais odieuse. Ce qui fait que, en fait, je ne crois pas que je sois quelqu'un d'odieux. Ce n'est pas du tout pour... Je ne pense pas. Je suis quelqu'un de pas facile à vivre, c'est sûr. Je ne suis, le... suis pas spécialement le bœuf mironton. Mais le méchant, non.
Vous avez dit, je me sens mieux dans ma peau depuis que j'ai accepté mon physique.
Oui.
J'aime beaucoup que vous ne soyez pas passée par les chirurgiens.
Oui. Ah oui. Bon, mais non, je n'ai pas envie. Enfin, peut-être ce serait mieux, mais moi, je n'ai pas envie parce que je crois que je serais différente. C'est pas que je m'aime comme je suis, mais je crois que c'est comme ça. Et, voilà, je ne sais pas comment je chanterais. Je ne sais pas ce qu'il arriverait si tout à coup, on a peur de toucher. C'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que... Enfin, en tout cas, pour moi, je ne veux pas toucher. Bon. Et maintenant, ce qui m'a aidé à accepter ce physique-là, c'est en fait le bonheur, si vous voulez, la joie qui m'a été donnée, bon, par cet horrible mot, par le succès, si vous voulez. Par... Et ça, ça m'a rendue innaturelle. Et j'ai accepté ce physique-là. Je ne peux pas dire que je trouve que c'est Ophélie, mais enfin, c'est bon, c'est comme ça.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Barbara qui répond à Denise Glaser sur sa musique jouée par Vincent Delerme. Vous arrivez à écouter à la fois l'archive et à jouer.
C'est très technique.
C'est très technique, mais c'est un bel hommage, ça.
Ah, j'aime bien cette idée. Justement, il n'y a que Denise Glaser qui peut accoucher d'une réponse comme ça, d'aller lui dire « vous n'êtes pas fait opérer pour surner », j'imagine, parce que Barbara disait souvent qu'elle faisait peur aux enfants. Enfin, il y a cette idée. Et c'est très beau, quoi, de l'entendre parler de ça, de mettre des mots là-dessus, c'est... Ouais, je crois que c'était fort.
Moi, enfant, elle me faisait un peu peur, Barbara, Valérie Lehoux. Cette longue dame en noir, avec ce visage fardé. Il y avait quelque chose un peu du masque aussi dans son maquillage. Hein. Peut-être même un peu du buteau, on pourrait dire.
Elle était très impressionnante, évidemment. Et au tout début de l'émission, il y avait une archive aussi où on l'entendait dire « Je ne suis pas mystérieuse, je ne comprends pas ». Faut pas non plus complètement se mentir. Elle avait une attitude incroyablement aussi théâtrale et même sa façon de parler. Moi, j'adore sa façon de parler. Sa façon de parler est presque une façon de chanter déjà.
C'est musical.
C'est musical, c'est beau, c'est mise en scène. Barbara, elle s'appelait pas Barbara, comme vous savez.
Elle s'appelait
Monique. Voilà. Et donc, quand tout à l'heure j'ai grainé toutes les choses qu'elle avait subies, c'est pas Barbara qui a subi ça, c'est Monique. Puis Monique, elle a survécu en créant Barbara. Et je pense que là-dedans, il y avait aussi une forme, oui, de théâtralité, une façon d'empoigner la vie et de se présenter à ses interlocuteurs qui était hyper impressionnante. Donc oui, je comprends qu'un petit garçon comme vous ait pu avoir peur, c'est tout à fait normal.
Moi, je sais pas pourquoi on dit que je suis triste, parce que sans doute, on véhicule, et puis bon, chacun a la tête qu'il a, peut-être j'ai une tête pas rigolote, je sais pas. Mais je veux dire, parce qu'au départ, j'ai parlé, bon, je suis pas la seule, je veux dire, c'est pas mon monopole de parler de la mort, de la solitude, du désespoir, etc. Et aussi parce que j'étais en noir. Mais bon, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'êtres qui sont en noir, à qui on dit simplement, vous êtes très chic, vous êtes aussi. Moi, j'étais en noir, on a dit, vous êtes étrange. Mais c'est pas plus étrange qu'une femme qui avait du noir. Je trouve que c'est une couleur magnifique.
Pourtant, dans la maison, il y a peu de choses noires.
Mais il y en a, je crois même qu'il y en a pas. C'est vrai que ma chambre est assez obscure, mais il y a une grande lumière dans la maison.
La différence, pourquoi ?
Mais parce que je pense que le blanc et le noir, c'est pareil quelque part. Mais la différence, c'est pas qu'il y a une différence. C'est qu'on ne veut voir, les gens ont envie de vous voir comme ils ont envie que vous soyez, peut-être.
Le Grand Atelier fantôme de Barbara.
Barbara, en 1993, sur France Culture, interrogée par François Delétraz, chez elle, dans sa maison de Précy. Elle était peut-être un peu aussi comme une nonne au couvent à Précy, Valérie Lehoux, je pense au noir.
Mais alors,
et à cette solitude.
Le noir était un habit de scène. Dans la vie, Barbara n'était pas forcément en noir.
On garde cette image, pourtant.
On garde cette image, parce que c'est une image très forte. Mais il y a des tas de photos de Barbara. Même hier encore, j'en voyais une dans une petite robe blanche, en train de prendre le soleil sur un yacht dans les années 60. Enfin,
c'est la scène.
Elle était en noir sur scène. Pas par hasard, parce que techniquement aussi, elle disait que le fait de masquer son corps, ça permettait de libérer les mains et le visage, ce qui prenait la lumière et ce qui permettait aussi de donner une intensité dramatique.
Ce qu'a choisi aussi Aznavour.
Et Juliette Gréco. Barbara ne vivait pas dans le noir, ne vivait pas entourée de morts et n'était pas sombre du tout.
Tu dis dans ton livre que Précy, c'est un endroit joyeux, parce que Précy, c'est un endroit où elle aime la nature, où elle aime ses fleurs, où elle fait pousser des plantes. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement gai,
très
Précy,
vivant. Oui, vivant. Alors, en effet, sa maison faisait l'angle d'une rue dans ce petit village qui s'appelle Précy-sur-Marne et est organisée avec un jardin intérieur qui ressemble à un cloître, enfin en tout cas qui peut y faire penser.
Ouais.
Et ce qui lui permettait, elle fermait les volets côté rue et elle ouvrait tout côté jardin. Alors évidemment, ça renforce cette idée de... Mais c'est parce qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Je me rappelle aussi une archive, une interview sur France Inter, pour le coup, à peu près à la même époque, là, 1993, où l'un de ses chiens aboie pendant l'interview. Et elle dit au chien, « Ah mais tais-toi du verbe se taire !» Et on se tait du verbe se taire. Et c'était ça, Barbara. C'était très vivant, très joyeux. Higelin raconte qu'un jour, il lui parle au téléphone pendant des heures et des heures, dans les années 90, elle lui dit, mais plutôt qu'on se parle par téléphone, viens à la maison. Il arrive, elle lui fait signe, un doigt sur la bouche, chut, on ne parle pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, toute la nuit, ils vont la passer à se parler par signe. Parce que ça la faisait rire, parce que ça l'amusait, et il n'a eu droit de prononcer un mot, et elle aussi, que le lendemain matin.
Elle aimait le jeu, J-E-U.
Mais bien sûr, c'était une grande joueuse.
Les coulisses, les équipes, les changements de salle, tout ça, c'est important. Les habits, l'importance de l'habit de scène, où les gens rentrent dans une loge, ils mettent leurs affaires sur eux, je pourrais les tuer. Est-ce que je peux accrocher là? Mais non, vous n'accrochez pas, c'est ma robe de scène. Ça a été touché que par une certaine lumière, que par le public. Un habit de scène doit toucher par personne. Par personne. On ne touche pas un habit de scène.
J'avais au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là, sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré. Pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché. Sur les tabourets, au bar du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines, à pas de loup, et déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent. Rapporte, je déambule, point virgule, je dégaine, ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc, mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir, c'est Noël, dans le cœur des hommes. Quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là, si vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, je vous réciterai la petite chanson. Verlaine, si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson, je vous ferai ça en douce. Venez mes frères, je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes, je trottine et mutine, douce, douce, pas farouche. Je dégaine, ma dégaine. Quel beau métier, je suis petite sœur d'amour. Infatigable, je vais de nuit et de jour. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là. De mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr. Je ne suis pas vraiment religieuse, mais Et chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égrène mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons notre paradis. Ensemble nous monterons au septième ciel.
On écoute Hop là de Barbara sur France Inter dans le grand atelier qui est consacré à cet auteur, compositeur, interprète disparu, vous le savez, il y a 20 ans maintenant. C'était quand l'écriture de Hop là, Valérie Lehoux?
C'est sur le disque L'Aigle Noir en 1970. C'est génial, c'est quand même une ode au plaisir. Voilà.
Vincent Delerme, Hop là, vous la chantonniez d'ailleurs pendant qu'on l'écoutait.
Vous êtes comme ça, vous vendez la mèche. Non, mais je crois qu'aussi ce qui fait peur aux gens en général, c'est quand les chansons disent quand même toutes quelque chose. À chaque fois, ça correspond à quelque chose, c'est jamais gratuit. Donc c'est ça l'image d'intellectuel, c'est pas le fait que ce soit inaccessible ou trop noir, c'est juste on sent que c'est chargé, quoi. Même dans une chanson légère, elle fait passer des messages qui sont profonds, donc je crois que c'est ça, mais faut pas avoir peur de ça en tout cas.
Oui.
C'est encore une fois, c'est une chanson de femme libre et gay.
Complètement, mais complètement.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une grande exposition consacrée à Barbara à la Philharmonie de Paris, vernissage jeudi prochain, mais l'ouverture au public, le plus important, c'est vendredi. Et c'est une spécialiste des archives et de la chanson, Clémentine de Roudil, qui a initié cette exposition et qui propose aussi un catalogue chez Flammarion qui va nous servir de guide. On entre dans l'expo avec une Barbara qui nous regarde, photo en noir et blanc. Elle tend les mains vers nous, c'est quoi? Elle est en train de nous dire que sa plus belle histoire d'amour, c'est nous, etc. C'est ça le sens?
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans une première salle qui va être une salle presque caricaturale de l'image qu'on a de Barbara, une image en noir et blanc, dans la pénombre, pour ensuite, évidemment, traverser ce rideau et aller ailleurs, aller vers l'idée du spectacle et vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, léger, joyeux.
On me dit toujours, je suis triste, pas du tout. Moi, j'aurais aimé être une femme paillette. Hop, hop, nerf troussé comme ça, gambette. Hop là. Hop là. Hop là. Hop.
On prend par la main le visiteur et j'essaye de recréer une magie qui est la magie qu'on a eue lors de ses concerts, la magie qu'on avait quand on écoutait ses disques, la magie qu'on avait quand on l'entendait aussi parler et comme peut procurer la chanson dans nos vies, quoi.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voix de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans la petite voix de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent.
C'est très compliqué d'exposer la chanson. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et donc, il y a des reconstitutions. Enfin, des évocations plutôt, grâce à mes deux merveilleux scénographes, Christian Marty et Antoine Fontaine. On a inventé des lieux et il y a aussi toute une installation sonore pour que on soit guidé par la voix de Barbara pendant toute l'exposition.
Je suis quelqu'un de très gai. En tout cas, autour de moi, les gens rient. On croit toujours que je suis triste, c'est pas vrai. Mais il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. Impossible.
Alors on quitte les rideaux et la couleur pourpre. Et on entre dans un train?
Oui, c'est un wagon de train, parce que ceux qui connaissent un peu Barbara savent qu'elle a passé son enfance dans des wagons de train, voilà, parce que c'était une petite fille juive pendant la guerre. Et donc, on a symbolisé ses voyages incessants par un wagon de train, une carte de France dans laquelle on symbolise tous les voyages qu'elle a fait. Elle a vraiment traversé la France de part et d'autre.
Ah oui, il y a vraiment une carte de France administrative.
Ouais,
avec des trajets.
Avec des trajets.
Elle va dans la Loire, dans les Bouches-du-Rhône, elle va aussi partout, dans les Pyrénées, ouais. Elle remonte, sans compter, et s'est tournée par la suite.
Exactement, mais elle disait toujours qu'elle était une famille de forains. Ça, on n'a pas vraiment retrouvé l'origine de ce qu'elle disait. Mais en tout cas, oui, ça, le voyage incessant, c'était vraiment Barbara. Et d'ailleurs, on l'a symbolisé. On a même voulu, à un moment, avoir une Mercedes puisque, dans l'exposition, parce que pendant 10 ans, elle a pratiquement vécu dans sa voiture avec son chauffeur. Et puis, en même temps, on a toujours très envie de mettre beaucoup, beaucoup de choses. Puis, à un moment, faut aussi savoir enlever, quoi. Donc, on a passé notre temps, depuis un an, à enlever.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service. Si la photo est bonne, si la photo est bonne.
principalement, on va voir des photos, on va voir des costumes, on va entendre des chansons.
J'avais envie de marier tout ça, de marier la photographie, essayer de trouver des belles images, des images qu'on connaissait pas forcément de Barbara, une autre image qu'on peut avoir, mais montrer des manuscrits, ça c'est rare, parce qu'on en a très peu vu et presque jamais.
Comment vous les avez obtenus ?
C'est grâce à Marie Schex, surtout.
Donc, qui a été son assistante, sa jeune assistante, sa jeune secrétaire, et qui a écrit ensuite, quand elle est devenue écrivain, sur Barbara, entre autres.
Exactement, et Marie a joué un rôle très très important, parce qu'en fait, elle nous a permis d'avoir plusieurs manuscrits, et surtout aussi une très belle pièce, qui est le carnet de Luc Simon, qui a été l'amoureux de Barbara, grand artiste. En fait, il l'a suivi en tournée, et il a fait des carnets très colorés. C'est ça aussi qui est important, parce que on a quand même beaucoup de photos noires et blancs.
C'est chronologique, je vois que là, dans cette salle, c'est l'enfance. Oui,
c'est complètement chronologique, mais ça, moi, je pense que c'est très important. Et ça, c'est Johan Sfar, avec qui j'avais fait l'exposition Brassens, qui m'a appris ça. C'est, on raconte une histoire, on raconte « Il était une fois ».« Il était une fois », bah, c'est par la naissance jusqu'à la mort. Et je trouve que l'histoire de Barbara est forcément chronologique. Surtout avec son enfance qui est ponctuée de drames, qui n'explique pas tout, mais qui explique beaucoup de choses.
On voit son père d'ailleurs là.
Ouais, ça c'est une, enfin c'est horrible à dire, mais c'est vrai que je l'ai eu très tard cette photo et c'était très émouvant de enfin mettre un visage sur cet homme en fait qui a quand même été
à la base d'un traumatisme, mais aussi peut-être d'une envie d'écrire et de chanter.
Évidemment, on voit Barbara là, elle est toute jeune. Et ben voilà, il y a la citation qui dit « J'ai 10 ans et demi, les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. »
Le film qu'on a en face de nous, qui est projeté là, c'est elle qui ressemble à une gitane un peu.
Ouais, alors là...
On croirait qu'elle va lire nos lignes de la main.
Mais c'est exactement ça, c'est une Barbara gironde, hein, avec des grandes boucles et un grand jupon. Et...
Mon pote gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot.
Elle est très loin de celle qu'on va découvrir par la suite.
Elle est déjà très théâtrale.
Mais toute petite, c'est ça. Elle est née et elle voulait être pianiste. Elle voulait faire du spectacle. Elle voulait être sur une scène de théâtre. C'est ça l'univers de Barbara. Donc c'est ça l'idée de notre exposition.
Bon, j'ai toujours pensé, toute petite déjà, que je jouais à la chanteuse, que je chanterais. Voilà. Je ne savais pas comment, je ne savais pas ce que ça voulait dire, être une vedette ou non. Ben. C'est après que j'ai compris les choses, mais je voulais chanter. Ça, j'étais sûre que je chanterais. J'ai toujours cru à ça. C'est impossible autrement.
Là, par exemple, on monte ces photos qui me font vraiment rire, qui sont encore dans la pénombre parce que la lumière n'est pas arrivée. Mais là, Barbara arrive en Belgique. C'est une Barbara qui va vraiment mal, qui est ronde, qui a les cheveux courts. On la sent très, très malheureuse. C'est le moment où même elle hésite à se prostituer, où elle n'a plus d'argent. Elle fuit un cousin violent qui l'héberge à Bruxelles.
On est en mars 51.
Voilà, elle a 20 ans.
Elle chante.
Mais elle a toujours voulu chanter. Donc là, elle part en Belgique pour chanter. Elle essaye de chanter. C'est la galère. Ça marche pas. Elle a faim. Elle a froid.
Elle chante quoi?
Elle chante les autres. Elle chante les autres à ce moment-là. Elle s'appelle Barbara Brody. Et elle reprend Macorlan. Et elle reprend Prévert. Et elle reprend Brel aussi. Et plein d'autres. Et Piaf. Et elle joue dans les cabarets. Elle joue là où elle peut jouer. Où on l'accepte. Mais c'est très, très bohème. La plupart des gens qui la voyaient arriver avait toujours un choc en disant que c'était incroyable aussi ce qu'elle dégageait, cette gitane à cette époque.
Elle a encore les cheveux longs là. Hein.
Là, elle a les cheveux longs. Ouais. Elle va couper ses cheveux en rentrant à Paris pour commencer l'écluse. De longues années, elle chante à l'écluse et comme elle dit, c'est là où j'ai commencé à respirer. Et c'est vrai qu'elle respire et on le voit d'ailleurs. Elle se met à sourire, elle a les cheveux courts grâce à un homme extrêmement important dont on ne parle pas assez, qui est Pierre Yégel. Qui est le papa de Catherine Yégel. Pierre Yégel, qui est un grand collectionneur, un éditeur, un homme de radio et de disques, essentiel à l'époque, qui la repère et qui lui fait enregistrer ses premiers disques, et dont la chanteuse de minuit.
Et qui lui donne ce look-là?
C'est elle-même qui, tout d'un coup, s'est mise à se couper les cheveux, à se faire un look.
Et à prendre ce prénom, Barbara?
Et à prendre ce prénom, ouais. C'est elle aussi, juste avant l'écluse. Mais tout d'un coup, elle décide de s'appeler Barbara. C'est un prénom qui est dans l'air du temps et qui correspond aussi à des origines russes, tziganes, qui sont réelles. Mais je crois que tout ce côté gitan, etc., est quand même un peu romancé. Mais elle avait besoin aussi, je crois qu'on se construit aussi à travers les fictions qu'on se raconte. Et alors Barbara, là, elle est exemplaire pour ça. Puis là, si vous vous retournez...
Un film.
Alors, on a un film, mais alors c'est l'écluse. On a une petite reconstitution de l'écluse. Et là, on va avoir Barbara à l'écluse, dans cette petite salle.
Mais moi, je suis arrivée, j'ai auditionné, je crois que j'ai été engagée 15 jours au départ. Et puis, je suis restée 5 ans ou 6 ans, d'ailleurs, pour ma plus grande joie. Moi, j'étais tellement heureuse dans mon petit coin. J'arrivais à 9h du soir et je passais à 1h du matin. Et je dois dire que j'ai passé là 6 années merveilleuses. Enfin, pour moi, l'écluse, c'est une chose qui demeure, que je n'ai jamais quittée de cœur, en tout cas.
Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est qu'en fait, l'exposition s'ouvre de plus en plus. L'enfance, on est vraiment dans des petits boyaux et à chaque fois, ça s'agrandit. Et là, on est dans le moment de l'explosion qui est Bobino, qui est un moment extraordinaire où elle écrit « Ma plus belle histoire d'amour ».
67.
Bravo, vous avez bien révisé. Et où elle va enregistrer tous ses disques entre 63 et... Enfin, tous ses disques. Ces disques majeurs, on va dire, avec Claude de Jacques, jusqu'en 69-70.
À ce moment-là de l'exposition, on va avoir quoi dans les oreilles?
Ah ben, on va avoir les chansons dont on va découvrir les manuscrits. Donc, Je ne sais pas dire je t'aime, La gare de Lyon, Pierre aussi, que j'adore, qui est une chanson que je trouve absolument sublime. Voilà, donc toute l'expo, il y a la voix de Barbara, enfin les chansons de Barbara qui vont nous suivre, avec quand même de temps en temps quelques pauses, parce que sinon, à un moment, on ne va plus en pouvoir. Donc là, on va arriver dans un endroit où il n'y aura plus de chansons.
Ici, il y a des robes là, qu'on est en train...
Ouais, ça, c'est les costumes de Barbara.
De repasser, ou je ne sais quoi. Ce sont ces robes de scène?
Là, c'est toutes ces robes de scène. Ouais.
Les vraies?
Ah bah ouais. Ouais, on a... Ça, c'est grâce à l'association Barbara Perlimpinpin, qui est une association formidable, qui garde beaucoup, beaucoup de documents. Et donc, on a... 5 costumes de scène. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez en face de vous, là, il y a Denise Glaser.
Oui, qu'on a entendu avec Vincent Delerme tout à l'heure.
Ah bah voilà, moi, Denise Glaser, essentielle. Voilà, donc
Et il y a la robe dans laquelle Barbara était interviewée par Denise Glaser, la robe en noir.
Voilà, exactement.
Donc la dame en noir née de cette tenue.
Exactement. Après... Voilà, on n'est pas sur du costume rose, hein. C'est la dame en noir, mais on a le premier costume où elle est en jupe et puis après le pantalon, grâce à Mine Vergès, qui est cette femme grande costumière, qui est aussi la costumière de Juliette Gréco, de plein d'immenses artistes. Et c'est Mine et Barbara qui inventent le look de Barbara. Mais Mine, c'est une très très grande couturière de spectacle, c'est la grande couturière de spectacle, c'est une grande dame magnifique. Et le look de Gréco, le look, toutes les grandes chanteuses, elles ont un look. Et ben c'est Mine qui a inventé. Alors là, voilà, là on est dans la grande salle. Ça représente les grandes scènes, Bobino, Châtelet. L'explosion de Barbara en scène, donc on va avoir les photos qui vont être projetées, on va avoir des diffusions de Pantin, et en même temps, de l'autre côté, on a Précy, que cette maison, elle s'installe en 73, enfin, on a l'évocation de Précy, avec le jardin...
D'où la verdure, oui.
D'où la verdure, parce que ça a été un basculement dans la vie de Barbara, la découverte de Précy, où tout d'un coup, elle n'était pas très mondaine, elle n'a jamais été très mondaine, mais elle vivait à Paris, elle sortait beaucoup, elle avait une vie très intense, et puis elle se retire à la campagne en 73, et là, elle ne sort plus, et elle se fait silence, et elle va composer dans le silence de cette maison. Elle va reprendre des forces à Précy, et c'est sur scène qu'elle donnera tout, quoi. Et donc on va avoir le piano d'étude qui est précis, qui va faire face au piano de scène, qui sera donc sur la scène qu'on a installée dans l'exposition, sur laquelle des artistes vont venir jouer tous les vendredis soirs. Donc ça c'est quand même super. Donc on a Babix, Elle, Barbara Carlotti, Tim Dup, Albin de la Simone, Cléa Vincent, Donia Bereri, qui vont venir chaque vendredi pendant un quart d'heure, 20 minutes, nous chanter quelques chansons de Barbara comme ça en surprise. Enfin, j'avais surtout pas envie de figer aussi une espèce de nostalgie, etc. et tout ça, de voir aussi comment on a des grands artistes et comment ils se sont imprégnés de Barbara et ce qu'ils en ont en fait aujourd'hui.
Il pleut. Aux pierres, mon Pierre.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Barbara à la Philharmonie de Paris. Ça vous donne envie, Valérie Lehoux? Vous ne l'avez pas encore vu. Moi, j'ai eu cette chance de voir le chantier.
Quelle chance, hein, quel vénard. Bah, évidemment, je piétine d'impatience.
Clémentine a ce talent-là d'aller fouiller et de découvrir des choses qu'on ignorait. Je vous propose d'écouter Dominica. Dominica, pourquoi ? Parce qu'il fait partie d'un disque qu'Alexandre Tarot consacre à Barbara. Et il chante Cet enfant-là, une chanson importante aussi.
Cet enfant-là, te ressemble, te ressemble. Il a de toi, je ne sais quoi. Le sourire, ou peut-être quand il marche, la démarche, il hésite et s'avance. Cet enfant-là te ressemble et j'en tremble. Cet enfant-là, tu t'en souviens, tu le voulais, tu m'en parlais. Et merveille des merveilles, je riais de t'entendre. Tu me disais comme je voudrais qu'il te ressemble. Moi, je voulais que cet enfant te ressemble. Tu voulais qu'un jour il soit avocat ou bien médecin. Nous nous disputions déjà l'avenir d'un enfant qui n'était pas encore là. Moi je voulais qu'il soit berger, jardinier ou bien musicien. Je l'imaginais déjà tout petit, un immense piano au bout de ses doigts. Il aura des poissons d'or, des jardins de sable et de grands voiliers blancs, des oiseaux de feu, des îles enchantées, des étoiles filantes au fond de ses yeux. Il ne connaîtra que l'ogre gentil qui jamais n'a dévoré les enfants. Mon enfant Dieu, mon enfant prince, mon enfant roi, mon enfant merveilleux, mon enfant rien qu'à moi. Nous lui tournions des manèges sous la neige. Nous lui bâtissions des châteaux en Norvège, en Norvège. Mais cet enfant-là, lui ressemble. Il a d'elle, je ne sais quoi, le sourire, ou peut-être quand elle marche, sa démarche et sa grâce, ma disgrâce. Cet enfant-là n'a rien de moi, mais vous ressemble. Cet enfant-là, te regarde, me regarde, il s'étonne, il s'inquiète. Est timide, il s'avance. Cet enfant-là me tend les bras et je l'aime. Oh, que je l'aime. Cet enfant-là n'a rien de moi, mais te ressemble, ressemble, ressemble.
Oh, quelle est belle cette reprise de Cet enfant-là de Barbara par Dominica. Est-ce que vous êtes d'accord, Vincent Delerme, Ketevan Davrichevi, Valérie Lehoux ?
Très, vraiment. Je l'ai vu la chanter au Printemps de Bourges et c'est Dominique qui peut être vraiment impressionnant de son côté. Donc sur une chanson impressionnante, c'est très, très beau.
Valérie ?
C'est vraiment, et puis c'est une très grande chanson et pas la plus connue. Et pour nous tous, je crois que c'est vraiment une chanson sublime. Et puis, elle dit, voilà, elle parle de l'un de ses drames intimes, qui est de ne pas avoir eu d'enfant. Et il n'y a aucune rancœur. Elle s'adresse à un homme qu'elle aime, qui a eu un enfant avec une autre femme. Et elle regarde cet enfant, elle dit, voilà, il me tend les bras. Et elle aime cet enfant. Et ça, c'est tout, Barbara.
On a encore des choses à entendre de Barbara, on a encore des choses à se dire avec vous, Vincent Delerme, Valérie Lehoux, Ketevan Davrichevi et Jacques Attali, l'un de ses grands amis qui va témoigner lui aussi. Allez, à tout de suite dans le grand atelier de Barbara.
La voix, elle, évidemment, elle vieillit. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai eu un moment donné la voix qui s'est cassée et qui, bizarrement, revient maintenant. Enfin, bon, alors, ben, il faut aller avec. Il ne faut pas aller contre les choses. Faut pas, quand, on, par exemple, on rentre en scène, on se sent très laid. Bon, ça va arriver des soirs, encore bien que la scène rende beau, mais eh ben, il ne faut pas aller contre cette laideur. Il faut aller avec cette laideur. Il ne faut pas lutter contre soi, mais être avec soi.
Retour en studio où nous évoquons Barbara aujourd'hui. Barbara disparue il y a 20 ans, elle est présente en chanson et avec ses mots et dans la manière dont nos invités la vivent et la font vivre. Vincent Delerme, Valérie Lehoux, sa biographe et journaliste aussi musicale à Télérama, et puis la romancière Ketevan Davrichevi. Nous parlons d'elle au présent. Alors je vous le disais, il y a énormément d'événements consacrés à Barbara. Alexandre Tarot a enregistré avec des chanteurs un disque Tarot Barbara. Un coffret Barbara sort. Jérôme Garcin publie une autre version de Claire de Nuit. Il y a votre livre, Ketevan Davrichevi. Il y a l'exposition de Clémentine de Rodil sur la musicienne à la Philharmonie de Paris. Et puis Depardieu, Gérard Depardieu, qui reprend son récital Barbara après les Bouffes du Nord à Paris. Il arrive au Cirque d'Hiver, toujours à Paris, du 7 au 12 novembre. Je ne l'ai pas vu, c'était comment, Valérie Lehoux ?
C'était merveilleux. Alors, je le dis d'autant plus sincèrement que je n'ai pas aimé le disque, puisqu'il a fait une version enregistrée, dans laquelle, je ne sais pas, je suis restée au seuil de ce disque-là, j'ai pas réussi. Et sur scène, j'ai été estomaquée, en fait, je crois, et bouleversée. C'est-à-dire, y a ce type qui est évidemment un monstre sacré, qui chante les chansons d'un autre monstre sacré. C'est quand même Depardieu aujourd'hui, voilà, on le sait tous, c'est un type extrêmement massif, hein, je veux dire, corporellement, il est là, il est énorme. Et subitement, il est incroyablement gracieux et féminin, à la fois terriblement présent et presque transparent quand il porte cette parole de Barbara. Il a dit à quelqu'un que je connais bien, qui est l'une de ses amies, je leur prête ma Barbara pendant ces deux heures de concert. Et on a vraiment la sensation que c'est ça. Il est passeur de l'esprit de Barbara. Il chante très bien. Et on a la sensation que cet homme, formidablement fin, dans tous les sens du terme, subitement, est touché par la grâce quand il chante Barbara.
Vous l'avez vu, Vincent Delerme, qui était Van d'Adrichet?
Je vais le voir le 9 novembre, j'ai hâte.
Vous avez déjà votre billet?
Oui.
Vos billets? Vos?
Vos.
Eh bien, puisque Valérie Lehoux n'aime pas le disque, on va l'écouter, ce disque, une petite cantate.
Une petite cantate du bout des doigts, hop, c'est dans tes mains la droite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante-la pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour au courtois. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour au courtois. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si la si la si ça va.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Il y a une phrase très impressionnante dans votre livre, Ketevan Davrichevi, c'est quand vous interviewez Valérie Lehoux, ça tombe bien, elle est à côté de nous, et Valérie dit « Je me demande si chaque trait de mon caractère n'a pas été forgé par une chanson de Barbara ». Je trouve que cette déclaration est impressionnante, Valérie Lehoux.
Oui, mais je le pense. Dans le rapport à l'amour, ça c'est évident. Puisque voilà, moi aussi, j'ai découvert Barbara, j'avais 13 ans, je pense. Donc le rapport à l'autre, le rapport au désir, le rapport, cette formidable liberté assumée par Barbara. Par exemple, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle « Le bel âge ». Où elle raconte qu'elle a une aventure, enfin une histoire d'amour avec quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle. Ce qui, encore une fois, dans le contexte des années 60, quand elle l'a écrit et chanté, c'était vraiment amoral, quasiment. Ça, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Je trouvais ça épatant. Et je suis convaincue que ça m'a donné la liberté d'aimer des gens beaucoup plus vieux que moi, ce qui m'est arrivé. Bon, plus ça va aller, plus peut-être je vais aimer des gens beaucoup plus jeunes, mais bon. Bref, en tout cas, je suis sûre que Barbara a libéré mon rapport au désir et à l'amour. Je suis convaincue aussi, parce que je ne m'épanouis jamais plus que dans une forme de discrétion. Pour ça, je suis convaincue que le secret qui entourait Barbara m'a aussi forgée. C'est-à-dire que j'adore ça. J'adore une forme de secret et de ne dévoiler mon intimité qu'à des gens que j'estime très proches. Je déteste l'affichage. Je pense que, évidemment, que Barbara, parce qu'elle était juive, et la façon dont elle en parlait, c'est-à-dire très peu et très subtilement, m'a sensibilisée à l'antisémitisme. Très, très tôt. Je pense que, parce que je sais que ce n'est pas dans mon entourage familial ou scolaire qu'on m'a parlé de ça. Or, très, très tôt, j'ai été sensibilisée à ça, et je le suis encore de façon un peu épidermique. Et je suis convaincue que c'est Barbara. Voilà. Et je pense que il y a bien d'autres exemples.
Je suis complètement inculte. Ce sont les autres qui m'ont fait, où les gens disent, oh, il faut que tu lises ça, ils apportent le livre, ils montrent la chose. Alors là, j'ai une espèce de joie extraordinaire. Mais je ne vais pas vers les choses, c'est ça le manque d'intelligence. Je n'ai pas la curiosité de découvrir, parce que je sais peut-être qu'on va l'apporter aussi, j'en sais rien.
Vous n'avez jamais été tentée par le fait de faire des études?
Non. Moi, ça m'a toujours ennuyée, peut-être que ça m'a été mal présenté, j'en sais rien. Toujours ennuyée les études, religieusement. Et avec une espèce de une grande admiration pour les gens qui savent. Comme j'aimerais savoir, mais j'ai la possibilité de savoir qu'à ouvrir des livres. Mais alors je dis, je comprends pas. Ce qui est vrai d'ailleurs, je comprends pas. Ou alors, il y a des choses que je comprends et dont les gens me disent, mais enfin, quoi, c'est pas du tout. Alors, on ne sait pas.
Je suis inculte. Elle n'est pas inculte, Barbara. Elle est autodidacte, Ketevan Davriché. Oui, mais pourtant, elle a ce style, elle a ses tournures, ce langage imagé.
Mais ça aussi, pour beaucoup de gens, c'est une source d'inspiration incroyable de se dire que cette femme qui écrit tellement bien, dont les chansons restent encore pour tout le monde, finalement, ne connaissait pas les notes, ne connaissait pas, n'a pas étudié la littérature, et elle écrit merveilleusement. Comme une nécessité, cette femme qui finalement s'est faite toute seule, ça aussi c'est extrêmement inspirant, c'est encore une liberté incroyable.
Bah vous écrivez non seulement qu'elle vous a fait lire, elle vous a amené à la lecture, mais qu'elle vous a amené à l'écriture aussi. Si vous êtes romancière aujourd'hui, Ketevan Davriché-Vi, c'est peut-être grâce à Barbara et au style de Barbara.
C'est complètement grâce à Barbara, c'est-à-dire que moi, elle m'a fait découvrir le pouvoir des mots. Donc en découvrant le pouvoir des mots, j'ai eu la curiosité de lire, j'ai eu l'envie de devenir écrivain, enfin c'est quelque chose qui, oui, ça vient d'elle, c'est sûr.
Vincent Delerme, on a parlé de votre envie de chanter « Mon enfance ». Vous avez dit « je veux bien chanter, mais une seule chanson », parce que voilà, c'est ce que j'aime faire en scène, une seule chanson de Barbara, en tout cas. Ben, on vous écoute, regardez le piano vous attend.
J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu. Je retrouvais mon innocence avant que le soir ne se pose. J'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude, Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sauges rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits s'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ô mes printemps, ô mes soleils, ô mes folles années perdues, ô mes 15 ans, ô mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Ô les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou, tout, j'ai tout retrouvé, hélas. Il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, ô ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venu ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seul avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenu, et seul au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant en ce...
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Mon enfance, Barbara, reprise par Vincent Delerme, Ketevan Davrichevi. Je vous sens ému?
Oui, j'adore. Mais j'adore repris par un homme. Bon, en plus, j'aime Vincent Delerme comme chanteur, en plus. Donc, c'est... Non, c'est...
Pourquoi vous adorez reprise par un homme?
Je ne sais pas. Je trouve que, en fait, c'est émouvant quand c'est un homme qui reprend Barbara. Ça me touche plus que quand c'est une femme.
Vous supportez plus?
Peut-être.
Valérie Lehoux, on vient d'entendre Vincent Delerme chanter « Mon enfance ». Il résonne comment, vous, ce texte?
Alors, j'imagine que c'est le 3e million de fois que je l'entends, et je viens seulement de réaliser que dans ce texte, elle ne fait pas allusion, en tout cas, elle ne parle pas ouvertement de son père. Et quand on connaît l'histoire de Barbara, c'est quand même, peut-être quand elle dit « Où mon passé me crucifie ». Tu vois, il aura fallu que Vincent Delerme la chante devant moi pour que subitement je me dise « Mais c'est incroyable ». Elle parle de ses frères et sœurs, Jean, Claude, Régine. Elle parle de sa mère. « Où êtes-vous donc, ô ma mère ?» Elle ne parle pas de son père. C'est une chanson magnifique.
Pourquoi ce choix, Vincent Delerme?
C'est difficile. Des fois, on ne sait pas trop. Je pourrais théoriser un petit peu, mais c'est une chanson qui m'a toujours fait de l'effet. Dès l'introduction de la chanson... les versions en public aussi, mais il y a comme ça quelque chose dès l'intro, quoi, dès les notes, l'harmonie qu'il y a, il y a quelque chose qui est tellement sans détour aussi, tellement sans filtre que c'est très fort. Et puis les autres chansons que je trouve sans filtre sont difficiles peut-être plus à endosser. On peut pas chanter Nantes comme ça. Et voilà.
Je vais vous emmener dans le 16e arrondissement, si vous le voulez bien, chez Jacques Attali, l'ancien conseiller de l'Élysée, l'ancien conseiller de François Mitterrand. Pourquoi Jacques Attali? Parce qu'il a eu une relation privilégiée avec Barbara. Il va nous en parler, tout simplement.
Barbara, c'était une femme discrète, je suis quelqu'un de discret, donc notre relation était extrêmement profonde et très discrète. Ça a été un peu plus public parce que j'ai écrit une chanson pour elle et que ça s'est su, évidemment. Mais en même temps, on se voyait de façon très intense. Elle était une amie de ma famille aussi, très proche. Et notre amitié a duré jusqu'à son dernier souffle, puisque je l'ai vue quelques jours avant.
Elle a commencé comment?
Un jour, elle est venue à l'Élysée pour une décoration, et elle s'est approchée de moi et m'a demandé si je pouvais l'aider très discrètement à aller voir des prisonniers atteints du sida qui commençaient. Et naturellement, je lui dis oui, j'ai organisé ça. Elle a tenu absolument la discrétion, ça s'est fait de façon discrète. Et puis, on est vraiment une sorte de coup de foudre amical. Elle et moi, on s'est vus sans cesse.
Tu as suivi l'ange, t'as-t-il offert une rose? Et toi, en échange, tout accepté, overdose. Tu aimais l'oiseau sage, vivre, liberté. Tu es parti, oiseau ivre, poussière d'ange t'enfermée, colline. Pourquoi pourrir à 15 ans, colline.
Parler de tout, de la vie, de l'inspiration, de l'écriture, des romans, de sa vie, de tout et rien, des amours, des échecs, des succès. Elle offrait aussi sa fragilité. Elle était extrêmement fragile, elle avait le trac tout le temps. En particulier quand elle avait un récital à préparer. Et elle n'avait pas avec moi la moindre armure. Donc c'était le sentiment d'entrer à l'intérieur de cette grande personne qui devenait une petite fille quand elle était avec ses amis, qui était extrêmement touchant. Et puis après, on a eu le projet que je lui ai soufflé, enfin soufflé comme beaucoup d'autres, mais je l'ai convaincu d'écrire ses mémoires, donc on a commencé à y travailler un peu ensemble, et puis elle m'envoyait les manuscrits, les passages par fax. À l'époque, c'était par Internet, c'était des fax. Donc, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'elle m'a longtemps dit qu'elle ne voulait pas le faire, parce qu'on écrivait ses mémoires quand on va mourir. Et elle est morte juste avant de finir ses mémoires, qui sont parues inachevées.
Pourquoi, Jacques Attali, souhaitiez-vous qu'elle parle d'elle, au-delà des chansons ?
Parce qu'il y avait évidemment dans les chansons des non-dits sublimes qui auraient pu rester ainsi. Mais il y a un sous-texte dans ces chansons qui est sa vie, comme elle me la racontait elle-même d'une façon bouleversante et que je comprenais beaucoup mieux la nature de son œuvre en connaissant un peu mieux sa vie. Je me suis dit que ça aurait été bien qu'elle le fasse connaître à tous.
On a découvert par ses écrits la réalité de l'inceste.
Oui.
Qu'on suspectait.
Oui.
Ça veut dire que vous, Jacques Attali, vous lui avez dit, il faut en parler au-delà de tes chansons, il faut vraiment le formuler.
Elle m'en avait parlé, et quand on a parlé de ses mémoires, je ne lui ai pas reparlé de ça. C'est resté dans le non-dit. Et quand je lui disais, il faut parler de tout, c'était ça, évidemment. Moi, ce qui m'a le plus touché chez elle, c'est cette certitude sereine de son talent, en même temps que le trac permanent.
Plus on avance, plus il vous a été donné, moi il m'a été donné beaucoup, beaucoup, et plus on a peur. Parce que c'est comme un rendez-vous où on va, un rendez-vous d'amour. Donc on a peur que les autres aient perdu le désir, comme c'est la chose quand même essentielle, s'il n'y a plus de désir. Et si tout à coup, on était seul à avoir le désir.
Elle doutait, mais en même temps, elle ne doutait pas vraiment, parce qu'elle savait qu'elle était rare. Mais elle avait tout le temps besoin d'être rassurée. Tout le temps besoin d'être rassurée.
Comment rassuriez-vous Barbara ? Vous parliez d'une petite fille qui a besoin d'être rassurée.
Elle aimait qu'on lui dise qu'on l'aimait, elle aimait qu'on lui dise que c'était bien, elle aimait qu'on lui dise qu'elle était rare, qu'elle était unique, elle aimait qu'on lui parle de son travail, mais elle n'était pas Narcisse. Je connais d'autres artistes innombrables qui ne savent pas parler d'autre chose que d'eux-mêmes. Or, Barbara adorait parler du monde, elle adorait. D'abord, je vous disais, elle adorait s'intéresser aux autres. Elle avait des conversations, par exemple, avec de jeunes enfants, très jeunes, 6, 7 ans, 8 ans, avec qui elle avait commencé, absolument passionnée, où elle les écoutait, essayait de leur transmettre des choses.
Votre fille, notamment.
Elle avait des conversations orales et écrites extraordinaires.
Une relation aux enfants et à l'enfance formidable.
Oui, formidable.
Alors on dit, Jacques Attali est l'un des rares à avoir pu pousser souvent la porte de Précy.
Oui.
Où elle s'était d'une certaine manière réfugiée, tout en sortant pour aller devant son public à plusieurs occasions. C'était quoi Précy avec Barbara ?
Précy, c'était un lieu très chaleureux, très fouillite, comme ça. On entrait dans une maison avec une petite porte, puis on entrait, puis il y avait une sorte de salon assez grand avec un piano et différentes choses. Puis il y avait son fauteuil à bascule, où elle était. Je l'y ai vu quelques jours avant sa mort, surprise, hein, sa mort était une erreur médicale, à mon avis. C'était un lieu magique, où elle était presque tout le temps seule, où elle était vraiment à sa place, quoi, dans cette solitude discrète d'un village lointain, une heure de Paris à peu près. Et c'était pas du tout apprêté, c'était vraiment un fouillis aimable. On déjeunait, on dînait, on prenait le thé, on bavardait.
Et vous faisiez à manger ?
On faisait de la musique, oui, on faisait de la musique beaucoup. Elle jouait des choses, on discutait de musique beaucoup.
Il y a 20 ans qu'elle a disparu, Barbara Jacques-Attali. Comment se manifeste le manque d'elle ?
Oh, très souvent. D'abord, ma fille est restée très liée magnétiquement avec elle, pour une raison très complexe. Et donc, l'anniversaire de Barbara, l'anniversaire de la mort de Barbara, sont des moments importants dans notre famille. Pour le reste, souvent, je me demande ce qu'elle aurait pensé. Je pense à son rire, je pense à nos conversations. Les dimanches après-ci me manquent, voilà.
Le grand atelier fantôme de Barbara.
Valérie Lehoux, vous qui êtes l'une des biographes de Barbara, il existe vraiment ce lien avec Jacques Attali, hein, parce que je vois quelques messages qui disent « Oui, mais c'est l'ami de tout le monde, Jacques Attali. » Alors, il aime bien les artistes, c'est sûr. Il aimait Coluche, Michel Berger, mais aussi Barbara. Vous le citez d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre biographie.
Oui, oui. Et Barbara l'aimait beaucoup. Voilà. Et au moins, on ne dit pas que Barbara était l'amie de tout le monde. On dit au contraire qu'elle était assez isolée, ce qui n'est pas si vrai que ça. Mais en tout cas, évidemment, il y avait vraiment un lien très fort entre eux deux. Et puis, vous savez que donc, il raconte, là, Jacques Attali, qu'ils se sont rencontrés au tout début. Elle est allée vers lui pour lui demander l'autorisation d'entrer dans les prisons.
Hein, de visiter les malades du sida.
Quand elle est partie dans cette grande croisade anti-sida. Et le fait que, grâce à Attali, cette porte-là se soit ouverte, c'était tellement important pour elle. Au départ, en tout cas, leur relation, leur amitié s'est fondée là-dessus. Et elle aimait beaucoup Jacques Attali, au point de chanter quand même une chanson qu'il avait écrite.
Colline.
Voilà. Qui n'est pas la plus grande chanson de Barbara, on peut quand même le dire. Hein. C'était très rare que Barbara chante des chansons de quelqu'un d'autre. Donc c'était une façon de lui dire « je t'aime », je pense, évidemment.
Kétévan Davrichévy, Jacques Attali a comparé Barbara à deux grands poètes. Il a cité Villon, il a cité Louise Labbé. Et dans votre livre aussi, pas mal de personnes interrogées, puisque vous interrogez, en plus de raconter votre lien à Barbara, vous interrogez pas mal de monde. Et on vous dit « elle a quelque chose de Proust et elle a quelque chose de Racine ». Rien que ça.
Oui, c'est Juliette Armanet qui dit ça. Il y a quelque chose de Racine chez Barbara. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens que j'ai interrogés, c'est quelqu'un qui, en tout cas, compte autant pour eux que certains grands poètes qu'ils ont pu lire ou certains grands écrivains. C'est la même importance, quoi. Donc, c'est difficile
c'est
de dire.
C'est beaucoup plus important que Louise Labbé et Racine, quand même, Barbara. Au quotidien, c'est drôle, parce que c'est pour faire plaisir. Mais franchement, Barbara, ça existe plus que Louise Labbé, quoi.
C'est la force des chansons. Les chansons, il y a quelque chose quand même d'immédiat et de quotidien, comme tu disais. Il y a quelque chose les chansons nous accompagnent et sont très faciles d'accès. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit ça dans mon livre, qui est d'ailleurs une écrivaine, qui dit, je trouve qu'une chanson, un livre, quand on est passé à côté, on est passé à côté. Une chanson, c'est comme une boîte qu'on peut rouvrir à l'infini et elle est là et on ne peut pas passer à côté d'une chanson. Et c'est assez juste.
On a évoqué l'inceste qu'a subi de longues années Barbara avec son père. Est-ce qu'on peut écouter Au cœur de la nuit où, très délicatement, elle fait allusion à cette violence ?
À cette violence et à cette obsession qui l'a poursuivie jusqu'à la fin de sa vie, qui est qu'elle n'a pas pu dire à son père qu'elle lui avait pardonné.
J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais. D'un pensée qui m'importune, c'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit se pareille à celle-ci. Une longue nuit de silence. Soudain, je me suis éveillée. Il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée. Dans une demi-somnolence, c'était au dehors. On parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide mais lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure. J'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci. Froide et lourde de silence.
Au cœur de la nuit, Barbara. Est-ce que vous connaissez Valérie Lehoux, Vincent Delerme, Ketevan Dabrichevi, Jean-François Fontana?
Bien sûr.
Valérie qui est incollable sur Barbara.
Non, mais on ne peut pas travailler sur Barbara et ne pas connaître Jean-François Fontana.
Alors dites-nous qui il est, parce qu'on va lancer un sujet, on est allé le rencontrer.
C'est un fan, assumé, hein, il se revendique comme tel, et c'est un exégète, un très grand collectionneur. Et c'est un type formidable parce que, contrairement à d'autres fans, il n'est pas du tout dans c'est ma Barbara à moi et je veux la garder pour moi. Il est dans le partage, il a une passion folle pour cette femme, il connaît tout sur tout, et il veut absolument faire partager. Et il m'a aidé hein, pour le bouquin, il me faisait des petits dossiers de presse, et ça a été un peu mon aide bibliothécaire dans son épaisse documentation. Et il est incroyable.
Et ben on va chez lui, dans son appartement. Elsa Denac est allée à sa rencontre. Jean-François Fontana.
Comme beaucoup, hein, j'ai découvert Barbara à l'adolescence. C'est à partir de 1967, donc j'avais 13 ans, qu'elle est entrée vraiment complètement dans ma vie. Avec l'enregistrement live de Bobino 67, et la première chanson, c'est vrai, que j'ai écoutée vraiment d'elle, c'est Madame. Et ça m'a terriblement percuté, marqué. À partir de là, bon voilà, j'ai voulu tout écouter, tout entendre, mais ce n'était à ce moment-là qu'une voix. Bon, ensuite, ça a été une présence sur scène, mais épisodique, et puis, bon, c'est devenu de plus en plus présente dans ma vie, mais jamais comme une relation personnelle, quoi. J'étais, oui, le ver de terre amoureux d'une étoile.
Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame.
Une des premières fois que j'ai vu Barbara, j'ai vu sa voiture dans la rue. Et je vois sur le siège de la voiture, il y avait des fleurs des champs, et puis il y avait un journal. Et je regarde le journal et je vois que c'est le Figaro. Et là, ça m'a plongé dans des affres. Je me suis dit, mais alors, Barbara est peut-être de droite. Ah, pour moi, ça aurait été dur. Mais il faut se dire un truc, c'est que on ne savait quasiment rien d'elle, quasiment rien de sa vie. D'où ce truc de pas savoir, d'avoir un peu la trouille de découvrir des choses qui finalement auraient cassé un peu le mythe. Et finalement, moi, je voulais pas la connaître plus que ce qu'elle chantait, qu'elle sur scène et qu'elle en disque.
Au bonsoir, madame.
Et le hasard a été qu'en 1987, au Puce de Clignancourt, je suis tombé sur un objet non identifié qui était une maquette de disque où il y avait marqué Barbara, mais avec trois titres inédits d'elle. Même si tu revenais, que chantait Claude François, les oiseaux. Ces trois enregistrements donc que j'ai achetés, j'en ai fait une copie. Et quand elle est passée au Châtelet en septembre 87, à la sortie, au moment où elle montait en voiture, je lui ai glissé la cassette dans la main. Deux, trois soirs après, là, je me suis enhardi et au moment où elle sortait du théâtre, je lui ai dit « Vous avez écouté la cassette ?» Et là, elle s'est arrêtée net et elle me dit « Ah, c'est vous la cassette ?» Elle m'a tiré par la main, je n'ai pas pris par la main, elle m'a tiré, elle m'a fait rentrer dans le théâtre avec elle. Donc là, elle m'interroge, elle me dit « Mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? Vous savez, je ne me souvenais même plus. » Et là, bonheur ineffable, elle a commencé à me chanter comme ça, tout, dans la loge, on n'était que deux, « Même si tu revenais. »
« Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. »
C'est ce soir-là que une relation plus personnelle a commencé.
C'est Barbara.
Et puis ce que j'ai découvert aussi, c'était la joie des tournées. Barbara, c'était une nomade. Hein. Plutôt que de se poser quelque part, ce qu'elle préférait, c'était les tournées. Avec un rituel extraordinaire en tournée, Barbara arrivait sur scène très tôt, mais vraiment très tôt. Hein. Elle s'installait, elle prenait possession des lieux. Il y avait les essais avec les musiciens, les balances, etc. Mais c'était surtout ce qui prenait un temps fou, c'était l'installation. L'installation du piano, la place exacte pour le piano, pour le tabouret de piano, pour les musiciens, etc. Ce qu'elle faisait fréquemment, c'était de descendre et de faire tout le théâtre, tout le lieu, pour voir comment on voyait des places du public, de façon à ce que tout le monde voit. Et donc, il fallait que le plano soit un peu incliné pour que les spectateurs du premier rang n'aient pas juste son front et ses cheveux. Ensuite, c'était le spectacle lui-même, les rappels qui n'en finissaient pas, les retours, les saluts. Et puis après, elle recevait le public, où les gens défilaient. Il y avait ceux qui, à l'époque, comme moi, se contentaient de dire « Merci, madame ». Éventuellement faire signer quelque chose. Et puis il y avait ceux qui lui racontaient leur vie. Et elle écoutait. Comme d'autres, moi je me suis mis aussi à aimer ce rituel des tournées, à suivre les tournées. Et c'est ce qui a favorisé aussi des liens entre des gens du public. Barbara, c'était quand même beaucoup un plaisir solitaire. C'est une relation intime que chacun et chacune a avec elle. Chacun ayant l'impression qu'elle chante que pour lui ou que pour elle. En revanche, les tournées ont favorisé le fait que les gens se reconnaissent, se voient. Et nous aussi, nous avions nos rituels, c'est-à-dire que on allait boire un coup, on allait au restaurant, on allait à la plage. Et donc, un groupe notamment s'est constitué, c'est ce groupe que Barbara a appelé les oiseaux. Ça, c'est l'armoire Barbara. Tout ça, ce sont des articles de presse, des photos, des cartons, des albums. Alors évidemment, j'ai tous les disques de Barbara avec des pressages étrangers, avec des raretés, des choses comme ça.
Et alors entre le petit garçon de 13 ans qui entend pour la première fois Madame, quand vous écoutez aujourd'hui, vous avez des sensations?
Alors, sans doute, oui, ce ne sont pas forcément les mêmes choses qui vont me toucher, mais l'émotion, elle est la même. Et ça me rappelle un échange que j'ai eu avec Barbara à ce sujet. Un jour, elle me fait venir dans sa loge. Barbara était là, un peu mutine, et donc j'arrive, elle me dit « Alors, comment ça va, Jean-François ?» Je lui ai dit « Mais comme quand on sort de chez vous. » Elle me dit « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» J'ai dit « Bah, écoutez, je vais vous dire. La première fois que je vous ai vu à Paris, c'était à Bobino. Et en sortant de là, j'étais dans un tel état que je me suis perdu. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus retrouver mon chemin. » Elle me regarde, elle me dit « Oh, maintenant tu ne te perds plus. » Je dis « Non, je ne me perds plus parce que je connais mieux Paris, mais l'émotion est toujours la même. » Et là, elle est redevenue sérieuse. Elle s'est approchée, elle me dit « Mais pour moi aussi, tu sais, l'émotion est toujours la même. »
Écoute, voilà tout ce que je peux te dire, je t'embrasse. Ciao.
Et voilà, Jean-François Fontana qui a conservé la voix de Barbara sur son répondeur, qui était Van Tabrichevi. Comment vous réagissez à cette admiration et à cette vie avec, à temps plein, Barbara ?
Non, mais je trouve ça, oui, c'est incroyable comme il y a des gens qui s'investissent à ce point-là. Moi, ça ne va pas jusque-là. C'est-à-dire
non,
que
pourtant,
c'est
vous, vous êtes une grande admiratrice hein, de oui, pas mal d'artistes.
Oui, mais je n'ai pas le culte de la personne. C'est-à-dire, je me mets à admirer quelqu'un et à aimer la personne quand j'admire déjà l'œuvre. Et Barbara, je me suis intéressée à l'artiste qu'elle était, à la femme qu'elle était, parce que j'y suis venue par les chansons. C'est parce que j'admirais son œuvre que tout à coup, je me suis dit, mais quelle est la femme qui est derrière ?
Le public avait un rapport extraordinaire à Barbara, rare. Elle avait aussi un rapport très fort, puisqu'elle a écrit sur ce public et chanté et remercié ce public en chanson. Mais elle en avait peur aussi, parfois, du public.
Il y a quand même des gens, quand elle habitait encore à Paris, qui ont dormi sur son paillasson, c'est vrai. Il y a des gens à précis qui avait planté une tente pas très loin dans un champ pas loin pour être à côté de sa maison et pour essayer de l'observer, voir si elle pointait le bout de son grand nez en dehors de la maison. Donc évidemment que ça peut être terrifiant parce que il y a des débordements, hein. T'as des gens qui prenaient des crédits à la banque pour pouvoir la suivre en tournée, qui posaient des congés sans solde, je me souviens d'une jeune femme qui allait de ville en ville, qui avait pas beaucoup d'argent, elle faisait du stop. Alors, moi, j'avoue que de temps en temps, j'allais sur les dates de tournée. Hein. Mais je faisais pas du tout partie de ce groupe-là.
En fait, il y avait des bandes de public et avec des réactions différentes.
Voilà, oui, on peut dire ça. Et un jour, je revois cette jeune femme-là que j'avais déjà vue et je la vois toute cassée de tous les côtés. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, comme elle suivait la tournée en faisant du stop, elle était mal tombée sur un camionneur un peu trop entreprenant et elle avait sauté du camion en route. Mais elle était donc toute plâtrée de tous les côtés, mais elle continuait quand même de suivre la tournée.
Vous avez raconté cette anecdote à Mathieu Amalric, il aurait pu la glisser dans son film Barbara. Vincent Delerme, une réaction à tout ce qui vient d'être dit?
Ce qui est étonnant, c'est que finalement, le fait qu'il y ait des gens qui suivent, qui dorment sur le paillasson et tout, c'est quelque chose qui d'habitude a lieu pour Claude François, pour
des rockstars,
pour Mike Brandt, ou des gens qui passent à la télé tous les soirs, enfin qui sont dans des galas, et puis c'est très condensé dans le temps, sur une période très précise. Là, ce qui est étonnant, c'est de susciter ça avec ce qu'elle propose artistiquement aussi, parce que la chanson Cœur de la nuit qu'on entendait, qui est une chanson du milieu des années 60, c'est une époque où c'est pas du tout compétitif, a priori, en termes de son, avec tout ce qui est diffusé partout, avec les yéyés, et elle arrive à imposer un respect. Donc, Attali parlait de ça, du fait qu'elle avait peur avant un récital, mais qu'elle avait beaucoup de confiance en elle aussi. Et c'est vrai que ça se sent aussi. Pour imposer à ce point-là ce type de tempo, ce type d'arrangement, cette manière de poser la voix, il y a quand même une certitude en elle qui est, voilà, il y a un pouvoir de conviction et d'attirance qui est incroyable.
J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de l'autre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Tiri-ri-ri-ri, seule je me suis promenée au bois. Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri. Tant pis pour moi, la lune n'y était pas. Tiri-ri-ri-ri-ri. Pour que tu puisses en te réveillant me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champs et bonjour me voilà. J'étais partie ce matin au bois. Bonjour mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois pour toi, mon amour, pour toi, pour toi, pour toi. Di, 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 di.
Le grand atelier fantôme de Barbara.
Ce matin-là, eh bien Vincent Delerme, vous ne la connaissiez pas, donc vous êtes heureux de l'avoir découverte.
Mais je la connaissais qu'à travers Christophe Honoré, effectivement.
Oui, c'était le générique de fin des chansons d'amour. Valérie Lehoux, comment vous vivez depuis 20 ans sans Barbara ?
Oh ben ça va pas mal, hein, faut pas non plus exagérer.
Vous avez une bonne tête.
Je m'en sors. Mais vous savez, j'écoute très peu Barbara. Alors chaque fois que j'entends là, ça me fait quelque chose. Hein. Je peux pas vraiment, ça m'émeut en fait, voilà. Et puis je trouve que ce sont des chansons, toutes celles qu'on a entendues là, je trouve que ce sont pour moi des chansons parfaites. Il y a une espèce de perfection, ouais. Ce sont des chansons rondes, harmonieuses. Je sais pas, je trouve ça formidable. Donc je l'écoute pas parce que je l'ai tellement écouté que j'ai l'impression que je la porte à l'intérieur de moi. Et très très souvent, par contre, j'ai une chanson de Barbara qui me résonne dans la tête. Mais là, je me disais, tu vois, à nous écouter tous parler, à écouter les témoignages, à réfléchir un peu dessus. Bon, moi, c'est vrai que j'ai d'abord été, j'ai d'abord fait partie du public avant de devenir journaliste sur la chanson et puis d'écrire sur Barbara. Quand je pense à Barbara, quand je travaille dessus, j'essaye toujours de garder une forme de distance pour ne jamais tomber dans le syndrome du fan, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas, qui ne serait pas adéquat à ce moment-là, ce serait pas professionnel. Donc je l'ai, cette forme de distance. Par exemple, quand elle dit « je ne suis pas mystérieuse », ça me fait un peu rigoler, parce qu'elle entretenait quand même une forme de mystère, faut pas exagérer. Mais, franchement, je me dis que c'était juste la plus grande chanteuse du monde. Enfin, du monde, je ne sais pas, mais de France, c'est sûr. Je pense que cette femme était un miracle. Je pense qu'elle a chanté parce qu'elle en avait besoin pour ne pas se foutre une balle ou pour ne pas devenir folle. Je pense qu'en effet, 20 ans après sa mort et 50 ans après la création de ses plus grandes chansons, on se rend compte à quel point elles sont... Mais c'est même pas moderne, c'est plus que ça, en effet intemporelles et à quel point elles nous touchent. On se rend compte qu'elles sont incroyablement intenses parce que je crois, Vincent, c'est toi qui disais tout à l'heure que...
Vincent Delerme,
elles disent toutes quelque chose, ces chansons. Il n'y a pas de chanson anodine. Et... Tu vois, quand t'entends Ketevan Davritchevi, qui est romancière, qui te dit « c'est elle qui m'a ouvert aux mots », quand on lit son livre, qu'on se rend compte à quel point toutes ces chansons ont compté dans la vie et dans la formation psychologique de milliers de gens, je pense que c'était une très grande artiste, et je pense vraiment... Alors je suis très fière, parce qu'à 14 ans, j'aurais pu aimer, je sais pas, Laurie ou les Toubisseries. Donc on peut tous être très fiers de l'avoir aimé tôt. Je pense vraiment... Tout simplement que c'est la plus grande chanteuse française.
Vincent Delerme, quand on vous écoute et quand on va vous voir en scène, qu'est-ce qu'on peut voir de Barbara ?
Oh là, le fait d'être précis, d'être ce que disait Valérie sur les... Là, je parle que des intentions, hein, pas des résultats. Mais ce que disait Valérie sur le fait qu'elle a la sensation que les chansons sont parfaites, que les choses sont abouties, qu'il n'y a pas un début qui est bien, puis après, bon, ouais, bof, ça devient moins. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que, je ne sais pas si c'est une tentation, mais c'est quelque chose qui peut vite venir, c'est-à-dire... On a un début de spectacle qui est pas mal, et puis après, bon, bah, ça retombe un petit peu. Enfin, ce soin-là, évidemment, qu'après, à l'œil nu, c'est complètement invisible, mais je suis assez attaché à ça en général. Et par exemple, j'aime beaucoup le film de Mathieu Amalric pour ça, parce que je trouve qu'il est très abouti dans tous les domaines, dans la prise de son, voilà.
Ketevan Davritchevi, l'auteur, la romancière, celle qui écrit et qui a lu d'abord parce que Barbara existait, tout simplement, 20 ans après. Qu'est-ce qui reste d'elle en vous et de quelle manière peut-être elle vous motive ?
C'est un peu ce que disait Valérie, c'est-à-dire que moi je l'écoute plus forcément souvent. Quand je l'écoute tout à coup, ça me saisit encore d'émotions. C'est même surprenant parce que je peux tout à coup avoir les larmes aux yeux parce que j'ai juste entendu un bout de chanson de Barbara et ça me surprend que ça puisse me faire cet effet encore. Mais c'est surtout qu'elle m'habite. Elle m'habite en permanence et j'ai même plus besoin de l'écouter et ça me porte encore. Et effectivement, ça continue de m'inspirer et de sans doute modifier mon lien ou en tout cas d'inspirer mon lien au monde qui m'entoure. Mais je voulais rajouter sur quand vous demandiez à Vincent Delerme ce qu'il y avait de Barbara en lui. Moi, je trouve quand pour les chanteurs, moi qui suis vraiment là, je parle en tant que groupie de la chanson française. Moi, ce que je trouve qu'il y a c'est chez beaucoup de chanteurs, dont Vincent Delerme, de Barbara, c'est une façon. Un rapport justement au monde et à la mémoire, beaucoup dans les chansons de Vincent, il y a quelque chose dans le rapport à l'intimité, la façon de livrer l'intimité et sa, sa propre mémoire, de l'offrir à celle des autres. Et c'est là que ça entre en résonance. Et il y a de ça dans les chansons de Vincent, je trouve. Il y a ça de Barbara. Enfin, moi, je le dis en tant que spectatrice. Il y a ça chez lui et chez beaucoup d'autres de chanteurs français. Pas tant que ça, d'ailleurs. Chez ceux que j'aime, parce qu'il y en a peu, en fait. Voilà. Qui est un rapport à la mémoire, au temps et à l'intimité.
Je n'ai plus envie de chanter. Je ne peux plus. Il faut que je parte. Il faut que je parte. J'ai passé plus de nuits à chanter que de nuits dans les bras d'un homme. Il faut que je parte. J'ai passé plus de temps avec ma peur dans les coulisses de théâtre. Plus de temps avec ma peur que de temps à vivre. Mais je n'ai plus peur. J'ai toujours pensé que le jour où je perdrai ma peur, je perdrai aussi mon désir de chanter. Il faut que je parte, c'est tout, je ne peux plus. J'ai passé plus de nuits à chanter que de nuits dans les bras d'un homme. Plus de nuits à chanter que de nuits à bercer un enfant. Plus de temps avec ma peur dans les coulisses de théâtre que de jours à regarder vivre ce que j'aimais. Accroché à mes espaces, sans rien voir du temps qui passe, j'ai brûlé ma passion près des autres. Je voudrais voir les saisons et connaître la passion.
Merci Vincent Delerme d'avoir chanté dans le grand atelier de Barbara. Merci Valérie Luhou, votre livre c'est toujours Barbara, portrait en clair-obscur chez Fayard. Merci Kéteban Davrichevi, Barbara, notre plus belle histoire d'amour. Barbara qui s'expose à la Philharmonie à partir de vendredi, elle y aurait peut-être chanté, tiens, aujourd'hui, qui sait. Toutes les références citées dans cette émission, vous les trouvez sur la page du grand atelier sur franceinter.fr. Vous pouvez consulter aussi et liker, comme on dit, la page Facebook du grand atelier. Cette émission est réalisée par Valérie Ayestaraï, Karen D et Camille Poux. Jalavier m'ont aidé à la préparer. À la technique, il y avait aujourd'hui Julie Garraud et Bruno Mourlan. Les infos dans un instant.